Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, Nationalisme et populisme, l'autre visage de l'Europe. Une série d'Alain Lefkovitch, réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a l'échéance des prochaines élections, les 1000 questions qui nous traversent et les peurs qui nous habitent. Il y a ce bulletin de vote qu'il faudra choisir et surtout, il y a ce chiffre que l'on ne veut pas entendre, que l'on préférerait ne pas lire, ces 25% de voix qui en France iraient à l'extrême droite. Alors il y a aussi une envie de comprendre, d'explorer, de s'obliger à entendre ou au moins à écouter ce qui émerge autour de nous. Et surtout, au-delà du constat de ce virage nationaliste européen, rappeler d'où vient l'extrême droite et ce que demeure son discours, un discours que ses électeurs n'ont plus honte d'assumer. Alors pour commencer, les personnages. Un Autrichien qui a peur de son coiffeur qui ne parle pas allemand, un psychanalyste qui travaille sur les génocides, un Italien qui voudrait que l'on ait peur dans la rue, des Flamands recroquevillés, des jeunes mus par le dégoût et des militants prêts pour la croisade. Ensuite le décor, de la peur partout, du racisme beaucoup, le rejet comme un principe, des rues calmes, l'islam comme un épouvantail, le fantasme d'une civilisation gréco-romaine, la soif d'un idéal et des salles d'attente. Aujourd'hui, deuxième épisode, Richard Rechtmann, psychanalyste, ausculte les génocides et les mécanismes de la haine.
On est d'extrême droite parce qu'on a une recherche d'identité, on est d'extrême droite aussi parce qu'on est habité par la haine plutôt que par l'ambition collective. On est d'extrême droite parce qu'on a été, d'une certaine manière, manipulé par des discours d'extrême droite et on peut sortir de l'extrême droite. Les populations qui rejoignent l'extrême droite, ce ne sont pas tous des gens en crise, ce ne sont pas tous des gens qui subissent des préjudices réels, mais ce sont tous des gens qui se reconnaissent dans un préjudice collectif qui va constituer leur mémoire. Pareil avec ceux qui vont rejoindre le djihad. Quelle que soit la réalité des préjudices qu'ils ont vécus, ils vont s'inventer des préjudices pour justifier un idéal. Donc on doit travailler sur le préjudice réel, on doit travailler sur le préjudice inventé, imaginaire, et on doit travailler sur ce que la société occidentale est capable de produire comme idéal. Le grand drame, c'est qu'aujourd'hui, parmi les hommes politiques, peu tiennent un discours qui permette de saisir la réalité objective dans laquelle nous nous situons. Et ça, c'est vraiment le terreau nécessaire dont l'extrême droite a le plus besoin.
Extrême droite européenne, des militants galvanisés et décomplexés. Mais l'idéal dont parle l'ethnopsychiatre Richard Rechtmann semble être aujourd'hui un horizon inatteignable. Qu'il soit italien de la Ligue du Nord, flamand du Vlaams Belang, autrichien du FPE ou polonais de la Coalition pour la Restauration de la Liberté et de l'Espoir pour la République, ils ont fini par nous rencontrer. Nous avons même été accueillis à bras ouverts auprès de ceux que les médias caricaturent, refusant d'entendre les ressorts de leur engagement radical. Leur ennemi, une Europe devenue incompréhensible et responsable de leur fiasco. Ils nous livrent sans détour leur colère et leur douleur d'être européens. Mais ils nous servent également sur un plateau leur haine, leur racisme et leurs idées courtes, chères aux populismes les plus nauséeux. Union européenne, immigration de masse, incurie des politiques, tout y passe et sans filtre.
Je m'appelle Achim Ertel, je travaille dans le domaine des médias et du marketing et j'habite depuis 2 ans à Vienne.
Ich komme aus der Steiermark, bin am Land in einem kleinen Dorf groß geworden und mein Vater.
Je viens de Styrie, d'un petit village. Mon père était ingénieur, il s'occupait d'alimentation électrique et ma mère était d'abord femme au foyer, elle est devenue ensuite secrétaire.
Die FPÖ hat sich in ihrer Geschichte zweimal oder dreimal sehr gewandelt.
Le FPÖ est un parti qui est tout à fait républicain. C'est un parti qui a subi deux ou trois grandes mutations, une mutation importante dans les années 70. Pour rappeler qu'à cette époque, le FPÖ faisait partie de l'internationale libérale, comme le FDP, par exemple, en Allemagne. Ensuite, il y a eu un changement aussi avec Jörg Haider, qui a réussi à reprendre un parti qui était, pour ainsi dire, mourant, pour en faire un parti beaucoup plus fort. Je voudrais aussi revenir encore plus loin dans l'histoire, retourner après la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'anciens nazis ont intégré les deux grands partis, donc les sociodémocrates d'un côté et les chrétiens conservateurs de l'autre. Et il y a eu un petit reste, et ce petit reste a donné lieu à un parti, donc l'Association des indépendants. Et c'est 10 ans plus tard que cette Association des indépendants, donc, qui avait été laissée par les deux grands partis, a donné naissance au FPÖ dans les années 60 à peu près, avec une orientation rapidement libérale.
Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas eu cette dénazification que finalement on a remis les compteurs à zéro et que tout le monde s'est retrouvé un peu dans les partis politiques qui ont émergé de ce cataclysme mondial?
Ich weiß nicht, ob es richtig war, was man damals gemacht hat, aber was wäre die Alternative gewesen? Sie hätten sonst.
En fait, la question, c'est de savoir ce qu'on aurait pu faire d'autre. Dans ce cas-là, la moitié de la population aurait été considérée comme des citoyens de seconde classe. Il y avait eu une dénazification forte. Il n'y aurait pas eu d'hommes pour reconstruire le pays. Dans ma famille, donc du côté de mon père, c'était SPÖ, les sociodémocrates. Mon arrière-grand-père était dans le Schutzbund. C'était une organisation paramilitaire, on pourrait dire, mais du côté des sociodémocrates. Et à côté de ça, de l'autre côté, le père de ma mère, il était nazi, il était dans la SA. Et son propre père était dans le Heimwehr, qui était une organisation paramilitaire des années 10-20, qui était, elle, rattachée aux chrétiens conservateurs.
Nous, on s'est promené pas mal en Europe et on a l'impression que tous les gens qu'on a rencontrés se sentent envahis par des étrangers. Tout le monde parle de l'immigration. C'est quoi la réalité de l'immigration ici, aujourd'hui, en Autriche?
Oui, pour moi, on assiste à une invasion. Ce qui a vraiment été décisif pour moi, c'est l'année 2015. Ça m'a amené personnellement à changer ma façon de concevoir la politique et je me suis vraiment déplacé à droite sur le spectre politique. Ce qui a été très marquant, c'est tous ces migrants qui sont arrivés sur la route des Balkans, essentiellement des hommes, énormément. Et j'ai été très déçu de voir que les chrétiens conservateurs, donc ma famille politique de départ, n'ont pas du tout été capables de protéger les frontières du pays.
Mais quand vous dites que c'est l'invasion, comment ça se concrétise dans votre vie de tous les jours? Est-ce que vous subissez cette invasion? Comment ça se passe?
En principe, c'est natürlich une gefühlte invasion, genauso wie auch Sicherheit ein gefühlter Wert ist. Man sieht einfach immer mehr Menschen, Frauen, die verschleiert durch die Gegend gehen. Man sieht nicht nur das Kopftuch, sondern auch wirklich die
Bien sûr, cette invasion dont je parle, c'est un sentiment d'invasion. C'est comme la sécurité, c'est quelque chose qui est subjectif. Ce que je peux voir, c'est que de plus en plus de femmes portent le voile. Il y a aussi beaucoup de burkas. Au début, on disait, oui, il n'y a que 8 personnes qui portent la burqa en Autriche. J'en ai vu plusieurs, c'est pas possible qu'il n'y en ait que 8. Vous pouvez le lire dans le journal aujourd'hui. La communauté musulmane d'Autriche a émis une fatwa expliquant que toutes les femmes devaient porter le voile, toutes les femmes musulmanes. Lorsque je suis dans le métro, j'entends plein de langues différentes. Mon coiffeur ne parle pas allemand. Il y a vraiment une constitution de société parallèle. Et à côté de chez moi, il y a un jardin d'enfants qui s'appelle Imam. Et de ce jardin d'enfants, je vois sortir une femme avec une burqa.
Und es ist tatsächlich so, dass natürlich die gewalttätigen Übergriffe zunehmen. Das können Sie in der Statistik nachlesen. Es werden zunehmend immer mehr Frauen belästigt. Es gab das in Köln, das berühmte.
Un autre point important aussi, c'est les violences, notamment les violences faites aux femmes. L'affaire de Cologne a connu une certaine publicité. Il y a eu 1000 dépôts de plainte pour violences sexuelles, 200 pour vol. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une seule condamnation effective et 6 autres personnes ont eu du sursis. Il y a eu un peu la même chose sur un modèle un peu réduit à Innsbruck. Là, il n'y a eu absolument aucune condamnation. À Vienne, il y a des combats de rue entre des Afghans et des Tchétchènes. Les Tchétchènes, c'est un autre peuple à problème. Et bah, il suffit de parler avec des policiers, avec des gens qui s'occupent des statistiques, pour voir qu'il y a un véritable problème, et vraiment essentiellement avec les Afghans et les Tchétchènes. Je suis de la Meinung, dass wir in eine Humanismusfalle schlittern. Wir haben eben, und da sind wir wieder bei der Kultur, die uns Europäer dann doch.
Je pense qu'on est un peu tombé dans un piège de l'humanisme qui fait partie vraiment de notre identité européenne. On a cette culture humaniste, on a aussi une culture du délit, une culture qui nous est propre. Et les Tchétchènes, les Afghans qui arrivent, amènent une autre culture du délit, une autre culture du crime. D'ailleurs, je ne vois pas du tout pourquoi on accepte des Tchétchènes comme réfugiés en Autriche. La Russie est un grand pays, que je sache, c'est un pays en paix, donc on n'a pas de raison d'accepter les Tchétchènes ici. Et les Afghans, bah, le problème, c'est qu'ils sont musulmans. Ceux qui sont bouddhistes, par exemple, aucun problème. On n'a jamais vu de bouddhistes commettre de tels crimes, mais là, c'est toujours avec les musulmans.
Alors, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit quand même que c'est exactement le même argumentaire que vous pouviez avoir à la fin des années 30 chez les sympathisants nazis.
Richard Reichmann.
Hein, par rapport à l'invisibilité des juifs et la survisibilité, le fait qu'il allait falloir s'en débarrasser. Ils sont là, c'est eux qui nous attaquent. Et nous allons répondre par légitime défense parce qu'ils sont en train de nous prendre nos foyers, nos modes de vie. C'est-à-dire que tout un discours se met en place de la légitime défense par anticipation. Si vous regardez ce qui s'est passé au Rwanda, c'est exactement la même chose. Hein. La différence, peut-être, c'est que nous sommes dans des pays, aujourd'hui, où il y a un accès à l'information tellement fort qu'on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas plus de travail éducatif fait auprès de ces populations-là. Que font les hommes politiques? Que font les services sociaux? Que font tous les espaces démocratiques de la société pour dire ces discours, on ne peut pas les accepter?
Vous pouvez me dire dans quel quartier on est ici?
This is the centro storico of Genova. C'est le centre historique de Genève, ça. Nous sommes dans les aquariums, ok? Che è il più grande acquario d'Italia e uno dei più grandi d'Europa. Beaucoup de touristes e beaucoup de étrangers aussi. Il y a des difficultés per la sécurité di questa area.
Alors quand on a décidé de venir se promener ici, vous m'avez demandé de ranger mon matériel dans mon sac parce que c'était un peu dangereux. C'est les quartiers qui vous font peur?
C'est un peu dangereux, il y a beaucoup de drogues ici. C'est un peu comme les banlieues parisiennes et Casbah de la Nord-Afrique. Les rues sont trop étroites et c'est un peu dangereux. Spécialement, c'est dangereux dans la soie. Alors, et voir une personne qui vend de la drogue, qui fait un vol à la portière, qui fait un vol dans la maison, qui fait autre délit, livre dans la rue, sans punition et jamais de prison, c'est pas pour moi, c'est pas un bon exemple pour les jeunes générations.
Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa.
Si chiama Via del Campo e è la tipica place della celebre con le chanson di Fabrizio De André.
Gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina.
via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano.
La Ligue du Nord a mis les petits plats dans les grands, en nous confiant à Fabrizio, notre guide cornac surveillant, trapu boxeur amateur et journaliste communicant à la solde du parti. Nous quittons ce quartier populaire du centre-ville aux accents méditerranéens, où prostituées d'Afrique, marchands de tout et de rien, primeurs et dealers se côtoient. Direction le Parlement de Ligourie, dont Gênes est la capitale. En cette journée de vote, l'ensemble du personnel politique s'est déplacé, en compagnie de quelques soutiens et amis. Certains sont moins fréquentables que d'autres.
Fabio Bozzo.
Je suis Fabio Bozzo, je suis d'une petite ville à côté de Gênes qui s'appelle Camogli.
34.
J'ai 34 ans.
Bah, io sono in Lega ormai da... Ormai questo è il mio sedicesimo anno che sono in Lega. Sono entrato perché era l'unico...
Ça fait 16 ans hein, que je suis dans la Ligue. Donc j'ai commencé à 18 ans. Et ce qui m'a poussé, c'est que la ligne politique de la Lega correspondait à mes aspirations. Donc il fallait retrouver, pour la région de Ligurie, une propre identité.
L'identità europea è il retaggio storico che nasce nell'antica Grecia, si sviluppa con Roma e poi attraverso il cristianesimo e l'illuminismo. Siamo tutti diversi, ma è questo la bellezza
dell'idea. C'est que l'identité européenne, elle est quand même sur des bases historiques assez claires. On est une civilisation gréco-romaine qui s'est ensuite adaptée jusqu'aux Lumières. Et ça a créé une identité européenne très forte. Et aujourd'hui, on a envie de nous l'enlever. Moi, j'ai pas envie d'être un numéro, j'ai pas envie d'être simplement un consommateur. Et j'ai envie qu'on se souvienne de cette histoire comme une histoire d'un continent. Donc, en réalité, maintenant, on est face à ce problème de la globalisation qui nous pénalise et qui nous attaque.
Le fait qu'ici, au Parlement local, à Gênes, on ait mis un crucifix au-dessus du président du Parlement, c'est une façon de réaffirmer l'identité chrétienne de l'Europe ?
È stato più che altro un segnale. Nessuno vuole trasformare la Liguria, tantomeno l'Europa o l'Italia.
Avant tout, un segnale qu'on voulait donner, parce qu'on considère que, qu'on soit croyant ou pas, l'Italie est un pays chrétien qui s'est basé sur la chrétienté, et que finalement, même si le pape à Rome a perdu les pédales, et à une politique qui ne correspond pas du tout à nos valeurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avant tout de donner un signal très fort par rapport à l'islamisation et donc aux valeurs chrétiennes du pays et à la tradition chrétienne, plus même que à la tradition cléricale, finalement.
Est-ce qu'on ne fantasme pas un petit peu sur l'islamisation des sociétés européennes ? Vous n'avez pas l'air d'être envahi à Gênes ?
A Genova abbiamo una grossa comunità islamica, soprattutto nel centro storico e nelle zone di periferia come San Pier d'Arena. Questa presenza dimostra che l'integrazione è un'utopia, è impossibile. L'Islam, per sua stessa natura, basta aver letto il Corano come ho fatto io, non accetta l'integrazione. L'Islam accetta soltanto la conquista. Nel Corano il mondo viene diviso in terra dell'Islam.
En réalité, il y a une immigration maghrébine importante à Gênes, y compris dans le centre historique et pas uniquement dans les banlieues de la ville.
L'Islam non accetta i valori fondanti della civiltà.
Et en réalité, on est face à une population qui ne s'intègre pas et qui a une volonté, malgré tout, dictée par le Coran. Moi, j'ai lu le Coran et le Coran explique de manière très simple qu'il y a la terre où l'islam règne et la terre qu'il faut encore conquérir. Et cette conquête, on la vit au quotidien et nous n'en voulons plus et nous voulons faire en sorte que cela cesse.
S'il n'y avait pas de problème de chômage, s'il n'y avait pas de problème d'école, d'enseignement, est-ce que vous pensez que le problème serait le même ou pas ? Ou est-ce que c'est finalement quelque chose d'inhérent à l'islam qui fait que l'islam et les valeurs occidentales ne peuvent pas se rencontrer ?
En réalité, non. In realtà no, perché come ho detto l'Islam non è soltanto una problematica socio-economica. Ok, in Italia c'è troppa disoccupazione per accogliere altri immigrati, ma questi immigrati islamici che vengono non vengono perché scappano da guerre o quant'altro. C'è anche la guerra nel mondo
islamico.
Alors,
en réalité, le problème de l'islam n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, uniquement un problème qui est lié à cette immigration économique. Ils sont en guerre contre nous, mais qui est une guerre de conquête religieuse. Donc, leur volonté, c'est de continuer la guerre de conquête de Mahomet et de faire un djihad dans l'Europe. Donc, le problème économique est certes un problème, mais la volonté de conquête fait partie inhérente de cette venue des populations de pays qui, d'ailleurs, sont des pays, pour certains, qui ont des ressources. Donc, finalement, qui pourraient développer une économie sur leur propre territoire.
L'islam è una religione politica. L'islam non è solamente una religione. L'islam è anche un modo di vivere.
Mais en réalité, l'islam est une religion politique. Donc, on ne peut pas réellement différencier les problèmes sociaux, économiques et politiques du problème religieux. L'islam est un mode de vie. Donc, en réalité, on ne peut pas se faire l'artisan du dialogue avec une religion qui, finalement, a des préceptes qui vont influer sur la vie quotidienne beaucoup plus que ce que devrait être une religion, finalement. Nous considérons que le dialogue est impossible pour cette raison.
Donc, il y a d'un côté l'Europe et de l'autre l'islam. C'est pas deux problèmes liés pour vous?
Sono due cose diverse, ma sono anche collegate.
C'est les deux thématiques qui sont au cœur de la politique de la Lega. Elles sont différentes, mais il y a des corrélations. L'entrée, par exemple, de la Turquie en Europe, qui déverserait des millions de musulmans en Europe même, et qui déséquilibrerait complètement l'harmonie de notre continent. Donc ça, c'est un exemple pratique de ce que la politique européenne pourrait avoir comme conséquence directement sur l'entrée de l'islam sur le continent. Par ailleurs, il y a une volonté de nos dirigeants de finalement faire une société qui ne reflète plus nos sociétés traditionnelles. Donc on est obligé d'avoir un œil sur la politique européenne, y compris pour des problèmes religieux, des problèmes d'identité. Et en France, vous avez le même problème. Donc, nous, on a le même problème qu'un Français, mais aussi un Finlandais. Enfin, c'est des choses qu'on retrouve partout, parce que, par exemple, le problème qu'il y a eu à Cologne, quand il y a eu des viols de masse sur des Allemandes pendant les festivités du Nouvel An, c'est quelque chose qui, pour nous, nous touche beaucoup. On a conscience que le problème est européen.
Dans tous ces pays qui connaissent justement cette immigration, il y a quand même une majorité de musulmans qui ne sont pas ce que vous dites. Il y a une majorité de musulmans qui ne vont pas dans les mosquées, une majorité de musulmans qui finalement s'intègrent très bien. On parle d'une minorité. Quand on voit les attentats de Bruxelles, de Paris, de Berlin, c'est des individus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait d'un groupe une généralité?
L'islam, c'est une règle qui se chiama taqiya. Ovvero dissimulazione.
Les préceptes même de l'islam qui ont été donc diffusés par Mahomet, une tactique qui est la tactique de la dissimulation. C'est-à-dire que les populations musulmanes, quand elles sont en minorité dans les pays, vont se comporter et vont quelque part se camoufler et vont attendre d'être en groupe supérieur pour pouvoir attaquer. Donc moi je suis convaincu que ça fait partie de leur tactique.
Zessen. We kwamen van nergens, gingen nergens naartoe. Vanaf de terrassen, in de koffiehuizen, bekeek we de mensen met hun drukke gedoe. We liepen met ons hoofd in de wolken en werden dan wakker met honger en dorst. En iedereen riep, kijk daar loopt de fanfare, de...
Nous laissons Fabio Bozzo à ses chimères pour aller à plus de 1000 km au nord, chez les flamands du Vlaamsbelang, comprendre intérêt flamand. Il est 20h quand nous poussons les portes du bureau régional du parti, au-dessus desquelles flotte le drapeau jaune frappé du lion des Flandres. Sam Van Roy, Chris Marens, Eddie Verhaals, Sam Mariette Foltz Jan Hofkins, tous militants actifs, nous attendent. La soirée va être longue. Leur objectif, tenter de nous convaincre.
C'est un pays quand on doit parler, je pense, trois langues, minimum. Parce que en Belgique, c'est un pays très, très divisé. Alors, on parle flamand, néerlandais, français et allemand. C'est comme ça. Mais je travaille beaucoup aussi avec des gens de Wallonie. Et quand tu demandes, mais pourquoi tu parles français avec moi, ils disent, mais tu sais, flamand, ce n'est pas très, très important, ce n'est pas une langue internationale. Il faut parler anglais maintenant. Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement ici, en Belgique, faut dire. Tout le monde doit apprendre trois langues et pas une.
Mais ce que je trouve grave, c'est que les étudiants secondaires en Wallonie ne sont pas obligés d'étudier le néerlandais. En Flandre, le français, c'est mandatoire pour deuxième comme troisième langue. Et là-bas, ce n'est pas mandatoire.
Mais naturellement, il y a aussi des hommes et des femmes en Flandre qui parlent seulement le néerlandais. Ils parlent français, ils parlent allemand, ils parlent anglais, mais oui.
Je m'appelle Chris Marenis, je suis le président du Vlaams Belang Kapellen. C'est une commune tout près d'Anvers.
Je m'appelle Virel Stedi, Virel Stedi, et je suis membre du Vlaams Belang.
Je m'appelle Sam Van Rooij, je travaille pour le Vlaams Belang et je suis ingénieur de profession.
Je suis Mariette Voogt, je suis hollandaise et je suis le... comment on dit ça, le voorzitter, the president of the Vlaams Belang, à Zwijndrecht. Et j'ai une agence de mannequins ici à Anvers.
Je m'appelle Anne Hofkins et je suis membre, bien sûr, du Vlaams Belang depuis quelques années et je suis sympathisant beaucoup, beaucoup. Et j'étais flamande de cœur. Je tiens à nos racines et tout le monde qui dit le Vlaams Belang, ce sont des racistes, font erreur. Il y a des gens de tous les côtés, de tous les partis, de partout, qui sont des racistes. Ce n'est pas un privilège ni un monopole du Vlaams Belang. Bien sûr, il y a des Vlaams Belang qui sont des racistes, mais ce n'est pas le parti qui est comme ça. C'est faux.
Je veux d'abord, je suis flamand, pas belge, non. Certainement pas. Moi, je suis pour l'indépendance. Que tous les gens du Vlaams Belang sont pour ça, hein. Chacun doit travailler pour le peuple, mais pas pour un autre pays, hein. Parce que nous devons payer 12 milliards pour la Wallonie. Et pour moi, ça doit terminer immédiatement. La Wallonie, pour moi, c'est un autre pays, hein, autre culture, mais j'ai rien contre eux. Mais c'est scandaleux, hein. 12 milliards. La Flandre, c'est notre pays, hein, pas la Belgique. Parce que la Belgique n'existe pas, hein. La Belgique n'existe pas, hein. L'indépendance, hein, it's our dream. Voilà, c'est ça. C'est frustrant pour nous, hein. Allez.
L'identité est une pure illusion, donc on ne peut la trouver que dans les périodes de guerre.
Richard Reichmann, ethnopsychiatre.
Finalement, la détermination de qui est l'autre, c'est le seul moment où c'est vraiment très simple, parce que l'autre, c'est celui qu'on tue. Une fois qu'il est mort, il est radicalement autre. C'est la seule façon de dire « moi, je suis membre de ce groupe », puisque ce groupe vit et l'autre est à tuer. Donc la seule identité possible est celle de l'extermination. C'est quand même épouvantable, il faut avoir ça en tête pour bien comprendre qu'il n'est pas possible de définir une identité en soi. Elle est forcément absorbante. Alors bien sûr, il peut y avoir des difficultés. Le cas flamand et wallon le rappelle très bien. Il y a des antagonismes qui sont des antagonismes politiques, qui sont probablement des antagonismes de coutume, mais pas des antagonismes ethniques, encore que... Si la Belgique était en Afrique, nous autres, on appellerait ça un conflit ethnique, hein. Là, on veut pas dire que c'est un conflit ethnique. L'ethnicité, c'est pour les Africains, et ici, c'est des nationalismes. Non, bah, c'est pareil partout, il y a des nationalismes purs et durs. C'est peut-être des conflits ethnicisants, mais l'ethnicité n'existe pas en tant que telle. Mais on voit bien comment ça apporte une réponse, cet homme-là qui s'exprime. C'est probablement l'homme le plus heureux au monde. Il sait où sont les problèmes, il sait pourquoi ça va mal et il connaît la solution pareil. En fait, si le monde fonctionnait comme ça, ça ferait longtemps qu'on les connaîtrait, les solutions.
I have witnessed that our culture is disappearing.
J'ai constaté que notre culture est en train de disparaître, tout comme cette culture très libre que nous avons en Europe de l'Ouest, qui est la plus libre et la plus pérenne du monde. Et c'est quelque chose que nous avons construit, que nos parents et nos grands-parents ont construit. Elle disparaît très vite à cause de deux influences majeures. La première, c'est l'immigration de masse en provenance essentiellement des pays musulmans. Et la seconde est l'Union européenne qui nous vole notre identité et notre culture. Elle nous force à nous intégrer à un État supranational. Ce sont les deux raisons qui me poussent à combattre avec le Vlaams Belang pour préserver notre culture. Je peux vous emmener dans les quartiers arabes marocains ici, à Anvers, et vous n'en croirez pas vos yeux. En fait, j'espère que vous ne croirez pas ce que vous y verriez, parce que si vous y croyez, ça veut dire que vous y êtes déjà trop habitué. Mais je ne pense pas que ce soit une chose à laquelle vous devez vous habituer. Être dans la rue, et vous ne voyez que des mosquées, que des boutiques halal, pas d'alcool, que des femmes voilées, des jeunes filles de 8-9 ans qui portent déjà le voile. Et si j'y vais avec ma copine et qu'elle ne porte pas de voile et qu'elle ose porter une mini-jupe en été, on va se faire emmerder et même peut-être attaquer. Et ça, ce sont des quartiers que nous avons déjà perdus. Et ça s'amplifie de plus en plus. Chaque année, 10 000 musulmans arrivent en Belgique. 10 000 chaque année. Et ils vivent tous ensemble, dans ces quartiers, et ils s'étendent. On ne se sent plus chez nous. Vous ne pouvez plus aller dans ces quartiers. C'est comme ça dans beaucoup d'endroits de l'Europe de l'Ouest, à Londres, Paris, Berlin, Malmö, en Suède. Ce ne sont plus des villes européennes. Les gens se sentent au Pakistan, au Maroc, en Tunisie ou comme en Égypte. Qui veut de ça? Personne ne le veut.
Je pense que la plupart des pays européens, la plupart des Européens ont peur de perdre leur identité, juste à cause du fait que, à cause de l'immigration, il y a des groupes de gens, essentiellement des musulmans, qui viennent dans notre pays et qui nous disent comment nous devons vivre dans notre propre pays. Ce n'est pas normal quand on y pense. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? En Angleterre, vous avez des tribunaux islamiques. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est l'Europe que nous voulons avoir? Si les choses ne changent pas, dans 10 ans, nous allons nous écrouler. Nous allons revenir au Moyen Âge. Est-ce que vous voulez revenir au Moyen Âge? Personne ne le souhaite. Nous voulons libérer tout le monde. Et si ces gens n'acceptent pas nos croyances et notre identité, alors ils doivent quitter l'Europe. Mais le problème, c'est que les politiciens européens sont très faibles et très feignants quand il s'agit de se battre pour leur propre peuple. C'est une honte ce qui se passe en ce moment. Tout ça, c'est une question d'argent, vous savez. Quand les partis politiques ont un peu de pouvoir, vous constatez qu'ils changent d'idée. Par exemple, avec le NVA, la nouvelle alliance flamande, elle était pour cette belle idée d'indépendance pour la Flandre. Mais elle a changé en disant « Ok, nous allons mettre toutes ces idées d'indépendance de la Flandre au frigo parce que nous voulons réorganiser d'abord le pays. » Aujourd'hui, nous sommes plusieurs années après et rien n'a changé. Ils n'ont rien changé du tout pour la Flandre. Rien. Les gens sont tellement déçus. Beaucoup de gens ont quitté notre parti pour la NVA parce qu'ils avaient l'espoir que la NVA fasse quelque chose pour la Flandre. Mais ça ne s'est pas produit. Et donc, vous voyez, dans notre tout petit pays, où les gens sont déçus, je suis sûre à 100% qu'ils vont revenir dans notre parti. Nous avons un problème. Nous ne sommes pas dans un véritable système démocratique. Ils ont créé un cordon sanitaire autour de notre parti. Est-ce que c'est démocratique, ça? Non, pas du tout. Ils nous ont consignés dans un coin comme si nous étions un parti très méchant. Mais ce n'est pas démocratique. Il y a tellement de gens de notre parti qui ont été élus. Mais tous les autres partis politiques, les socialistes et tous les autres ont dit « Ok, mais ils sont trop à l'extrême droite. » Ok. Peut-être que nous sommes de droite, mais nous ne sommes pas d'extrême droite. Nous sommes un parti de droite. Nous avons remporté tellement de voix. Et maintenant, ils nous disent que nous sommes trop d'extrême droite et que par conséquent, nous devons rester dans notre coin. Ce n'est pas démocratique et c'est une des raisons pour laquelle j'adhère au Vlaams Blanc.
Les gens qui entrent ici doivent comprendre cela. Quand je dis s'adapter, je veux dire c'est complet. S'adapter à nos coutumes, je ne veux pas dire que les musulmans, par exemple, qui entrent, qu'ils doivent se convertir en catholiques, non, ça c'est autre chose. Tout le monde devrait être libre de continuer sa vie comme c'est normal, mais quand on entre ici avec des burkas, avec des trucs comme ça, heureusement, ça s'est défendu, bien sûr, par l'État belge, parce que aussi le terrorisme, enfin, c'est très, très, très complexe. Hein. And also in the past,
et parce que dans le passé, est-ce que je peux continuer en anglais? Dans le passé, nous avons dû tellement nous battre parce que les classes privilégiées, on va dire dans les années 1900, elles parlaient le français. Les Flamands étaient les travailleurs, les petites gens, ceux qui travaillaient dans les fermes et qui partaient à l'étranger pour faire les vendanges ou travaillaient dans les champs de canne à sucre.
Whatever, and now we have the wars of religion, which is still.
Aujourd'hui, nous sommes en guerre de religion. Ce qui est, je ne veux pas dire pire, mais ce n'est pas bon. Vous savez, au Moyen Âge, on a fait les croisades. Les chrétiens sont allés à Jérusalem dans le but de sauver la chrétienté.
Now, the Islamic people, the Muslims.
Aujourd'hui, les islamistes, les musulmans, se tuent les uns les autres parce que les sunnites, les chiites... Qu'est-ce qui est plus ridicule que ça? Je respecte leur religion, mais eux, ils doivent respecter la nôtre.
When I was working on the emergency, we had sometimes problems with people, only with Muslims. 70%, 70% sont des criminels. Et on voit ça partout, hein? On n'est pas aveugle, hein? C'est incroyable.
Vous les sortez d'où, vos statistiques?
Les noms. Ils ne doivent pas payer, ce sont les Flamands qui doivent payer. Vous êtes crapules. Vraiment, hein? Alors, ce ne sont pas des hommes, hein? ce sont des psychopathes, sorry. Hein? Mais il y a des musulmans qui ont very good Muslims, maybe 30%, mais 70%, ce sont des criminels. Scandaleux. Et moi, je dois payer. Oui. That's the government, but yes.
It's not that I have anything.
Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes avec ces gens.
No, I'm against.
Mais je suis contre le système.
The system is wrong.
Le système a tort. Il a vraiment, vraiment tort. Aujourd'hui, tous ces réfugiés, ils ne rentrent pas chez eux. Je comprends que les Syriens d'Alep ne rentrent pas parce que leur ville est en ruine. C'est une catastrophe. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux comme ça. L'Afrique. Ils viennent ici pour profiter de la qualité de vie qu'offre la Belgique. L'argent. Ils sont sûrs de pouvoir bénéficier d'une assurance maladie.
Ok,
ils méritent une vie comme la nôtre. Mais il n'est pas possible de leur donner à tous un travail qui leur permettrait de payer des impôts comme nous le faisons. Ce n'est pas possible, et encore moins dans le court terme. Peut-être dans le futur, s'ils y arrivent. Parce que tous les gens qui viennent ici ont un bon niveau d'éducation.
Ils sont ingénieurs, médecins, ils sont venus ici pour fuir leur pays, pour des raisons que nous connaissons tous. Mais après, quand les choses vont mieux, ils doivent repartir dans leur pays. Ceux qui restent sont ceux qui n'ont pas de travail, qui sont illettrés. Ils ne savent ni lire ni écrire et ils ne peuvent rien faire d'autre que gratter le sol éventuellement. Et même s'ils veulent le faire, ils méritent le respect. Je les respecte, mais ils doivent essayer de s'en sortir, de faire quelque chose. Ils reçoivent, et en échange, ils doivent eux aussi donner et rendre.
Ce qui me semble apparaître quand même du fil de tous ces commentaires, au-delà des critiques que l'on peut formuler sur tous les aspects, c'est que derrière les aspects concrets, qui sont probablement difficiles à contester de leur point de vue.
Richard Reichmann.
C'est la recherche identique qu'il y a à celle d'un idéal. Et si l'on veut pousser plus loin cette interrogation-là, ça peut apporter des clés pour essayer d'endiguer ce phénomène de la montée d'un côté de l'extrême droite, de l'autre côté, on pourrait dire, du djihadisme dans certaines populations, puisque à l'évidence il y a des points communs, et on voit très bien comment l'engagement dans la mouvance d'extrême droite violente et l'engagement dans la mouvance djihadiste violente reposent grosso modo sur les mêmes mécanismes, c'est les mêmes populations qui sont ciblées, c'est les mêmes recherches. Et fondamentalement, ce qui est problématique, c'est cette question d'un idéal que nos sociétés peine à vouloir donner. Alors, les gens se le réinventent. Là, on a vraiment une réinvention d'un modèle idéal et une recherche, une quête d'idéal. Donc, bien sûr qu'il faut contester les points par point chacun de ces discours, mais il faut entendre ce qui est derrière. Et ce qui est derrière, contrairement à ce que disent certains de nos hommes politiques, ce n'est pas la réalité des conditions sociales, c'est l'absence d'idéal des sociétés démocratiques. La victoire de Trump, c'est un homme qui a eu le courage de dire qu'il allait promouvoir un nouvel idéal, le sien d'ailleurs, et il le fait très bien, puisque c'est pas Wall Street qui a la Maison Blanche, ce sont que des milliardaires, c'est-à-dire tout ce qui a été dit sur Clinton, 10 fois pire est en train de se passer au vu et au su de tout le monde, mais évidemment il l'avait dit. Son idéal, il l'a atteint, c'était son idéal. Et porter un idéal aussi fort a donné un enthousiasme à un certain nombre de personnes. Donc ça montre bien que ce qui nous traverse aujourd'hui, ce sur quoi il faudrait que les politiques, mais aussi les intellectuels, travaillent ensemble, c'est à produire quelque chose qui soit susceptible d'engager les gens vers un idéal. L'idéal, c'est pas celui des Trente Glorieuses, c'est pas celui de la Révolution française, c'est pas celui qui est passé. Qu'est-ce que nous pouvons produire comme idéal pour que des gens comme ça puissent penser qu'avec leurs voisins, la vie va être meilleure? Et ça, je dirais que nous traversons une crise intellectuelle plus qu'une crise sociale. Comment on peut répondre à cette femme-là? Eh bien, en lui donnant un autre idéal. Comment on peut répondre à cet homme-là? En essayant de connaître avec lui un autre idéal qui soit un idéal collectif, un peu plus large. Ils le disent, nous vous avons un idéal entre nous. Parce que ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à avoir un idéal plus large.
Kilomètres plus à l'ouest, nous retrouvons le sulfureux et peu fréquentable Janusz Korwin-Mikke, chef de file de la coalition pour la restauration de la liberté et de l'espoir pour la République, ultralibéral et libertarien. Ce soir, les plus jeunes de ses militants sont venus l'écouter religieusement.
He's there,
yeah.
And we have a meeting of our group here at 18.
That's why we are here.
Okay, great. Yeah.
Thanks.
21 years old.
21 ans.
And you?
15.
15 ans.
15.
I don't speak English. 21, nie wiem, może ktoś...
21 ans.
I have 21.
21 ans.
18.
18 ans.
17.
17 ans.
16.
16 ans.
Alors vous êtes tous jeunes, pourquoi avez-vous décidé de militer dans le parti de Korwin-Mikke?
La Pologne a besoin d'une révolution pour devenir plus libre que nous ne le sommes aujourd'hui. Janusz Korwin-Mikke est notre dernière chance et notre dernier espoir.
Je suis là parce que je crois qu'en Pologne, on a besoin de plus de liberté. Liberté économique et liberté personnelle. Nous sommes ici afin de provoquer des changements dans la société.
So I'm interested in politics and I decided to
Moi, je m'intéresse à la politique get involved et j'ai décidé de m'impliquer.
And Janusz Korwin-Mikke is closest to
Korwin-Mikke est celui qui est le plus proche de mon cœur et de mes idées.
That's all. And in Poland, I think we
Et puis en Pologne, il y a tellement de politiques qui sont malhonnêtes avec nous.
With us and there are so many corruption.
Il y a beaucoup de corruption ici, et moi je veux changer tout ça.
And I would like to change it.
So I'm 16. I came from Warsaw.
J'ai 16 ans. J'habite à Varsovie. Et j'ai rejoint M. Janusz Korwin-Mikke parce qu'il est l'homme de la liberté. Il veut que nous soyons aussi libres que possible, sans impôts, sans législation contraignante. Je souhaite protéger ma famille moi-même avec des armes. Je n'aime pas ce gouvernement qui me vole mon argent pour le donner aux pauvres qui ne travaillent pas et dont nous n'avons pas besoin. J'aime Korwin-Mikke parce qu'il combat tout ça.
Alors, quels sont les arguments qu'avancent les gens qui s'opposent à vous ?
Ils disent que Korwin-Mikke est un vieil homme politique et il devrait prendre sa retraite. On dit plein de choses mauvaises sur lui, des mensonges, qu'il a 20 ans de retard en politique, qu'il veut tuer tout le monde, ce qui n'est pas vrai. C'est ce que dit la télévision et ce que les gens croient.
En Pologne, on a eu des systèmes communistes et socialistes. Notre pays, notre État, doit décider pour notre peuple et notre nation. Mais aujourd'hui, en Pologne, on ne peut pas penser et agir librement.
Nous nous inspirons également de certaines figures historiques comme Ronald Reagan et Lady Margaret Thatcher, ou encore Milton Friedman qui a dit que seulement deux personnes pouvaient changer les choses au centre de l'Europe, Václav Klaus, ancien président tchèque, et Janusz Korwin-Mikke en Pologne. C'est Milton Friedman qui l'a dit et nous le considérons comme un grand homme.
Alors c'est quoi les problèmes les plus importants auxquels vous, les jeunes, vous devez faire face aujourd'hui en Pologne ?
Le taux élevé d'imposition est un gros problème. Le coût du travail est très élevé en Pologne. Et c'est pour ça que l'économie polonaise s'est effondrée. Nous allons poursuivre nos études de la politique polonaise.
Quand les choses sont publiques, on doit payer pour le fonctionnement de l'administration qui va avec et les gens qui l'organisent. C'est du gaspillage, à mon avis. En théorie, oui. En Pologne, il y a beaucoup de services publics, comme les hôpitaux, les écoles, et ça ne marche pas bien. Le privé, c'est plus efficace. Par exemple, parfois, il faut attendre longtemps pour voir un docteur et pour voir un spécialiste. Il faut attendre un an ou deux ans. Dans le privé, tout va beaucoup plus vite.
Alors, je pose la question comme ça, hein, si vous voulez répondre. L'argent public, ça sert à faire fonctionner les services publics, l'école, les transports, non ?
Nous n'avons pas de système de transport public, ni d'eau, ni d'électricité publique. Et les écoles publiques sont mauvaises. Il y a plein de problèmes. Je n'ai jamais vu aucun problème avec quelque chose de privé. Quand je vais voir un médecin privé, j'ai une médecine privée. Quand je vais le voir, je prends facilement rendez-vous avec lui, juste en téléphonant. Je ne fais pas la queue. Quand je m'adresse à les médecines publiques, il y a du monde, j'attends deux ou trois heures, le médecin n'a pas beaucoup de temps pour moi. Et en plus, il n'est pas très bon. Je dois attendre au milieu de gens qui sont malades. Dans le privé, je paye avec mon argent. Je ne fais pas la queue, je ne suis pas en contact avec des gens malades. Donc le privé, c'est bien mieux que le public. C'est un fait et on ne peut rien lui opposer.
Vous, vous vous plaignez de tous payer des impôts, mais vous ne payez rien encore. C'est vos parents qui vous financent.
I don't agree with you that we don't pay taxes, because every time I get back to school, from school to home, I'm going to shop.
Je ne suis pas d'accord avec vous. On en paye des taxes. Quand je reviens de l'école et que je m'achète quelque chose à manger ou à boire, je suis obligé de payer la TVA. Et donc, je paye des taxes. Ils me volent mon argent dans la glace que je suis en train de manger.
In a few years, I will start to work and I will start to pay those taxes.
Et puis dans quelques années, je vais commencer à travailler et je vais devoir les payer, tous ces impôts. Et je ne veux pas les payer parce que c'est stupide et que ce n'est pas bien de voler l'argent de ceux qui travaillent pour le donner à ceux qui ne travaillent pas et qui ne veulent pas travailler. L'homme ne peut pas survivre s'il ne fait rien. Eh bien, eux, ils peuvent survivre en ne faisant rien grâce à cet argent.
Mais alors, comment aider les gens les plus vulnérables de la société, les SDF, les malades, les personnes âgées, les handicapés, s'il n'y a plus d'État-providence ?
So my opinion is that the human nature is good generally, and people would help these homeless and sick people.
À mon avis, la nature humaine est bonne en général. Et s'ils le souhaitent, ils aideront ces SDF et ces malades. Et cette aide sera mieux organisée que l'aide publique. Parce que les institutions publiques ne travaillent pas bien. Une charité privée serait mieux.
Quel est le problème avec les musulmans ? Parce que finalement, effectivement, l'Europe s'est constituée de mélanges. On a l'impression aujourd'hui que un certain nombre de gens ne veulent plus appeler un chat. Et ce qui dérange finalement, c'est pas tellement les gens, c'est le fait qu'ils soient musulmans, ces gens.
Nicht die Kombination mehr oder weniger. La combination. Das Problem ist.
Achim Ertel.
Le problème, ce n'est pas vraiment l'islam ou ces gens-là, c'est en fait une combinaison des deux. C'est ces gens-là étant musulmans. Il faut savoir que l'islam n'a pas une aussi grande culture en Europe que les autres religions. Bon, il y a eu évidemment par l'Espagne une arrivée de l'islam en Europe, mais c'était l'islam était lié à un pouvoir guerrier. Même chose avec la Turquie à l'époque de l'Empire ottoman. C'est également un pouvoir guerrier qui a conquis la moitié de l'Europe et qui justement a dû rebrousser chemin à Vienne. Et donc pour nous, Autrichiens, on a quand même une autre culture dans le rapport à l'islam du fait qu'on a été considéré comme les protecteurs de la papauté. L'Autriche est un pays profondément catholique. Alors je sais bien qu'en France, c'est pas pareil, parce qu'en France, vous avez cette laïcité, mais ici, en Autriche, on est dans un pays catholique.
Vous n'avez pas peur aujourd'hui qu'en mettant toutes ces idéologies en avant, on se relance dans une guerre de religion, dans une confrontation d'empire, d'un côté les chrétiens, de l'autre les musulmans? Est-ce que vous n'avez pas peur de ça, justement ? La bipolarisation autour de ces questions religieuses qui, finalement, concentre toutes les attentions aujourd'hui en Europe. Est-ce qu'on a raison de le faire ?
Cette guerre est déjà en préparation. Elle a lieu actuellement. Dans les cercles conservateurs ou les cercles de droite, on réfléchit réellement à constituer une nouvelle forme de croisade pour pouvoir réellement se débarrasser des musulmans. Et on est bien conscient que cela ne se fera pas sans verser du sang.
Merci à Richard Reichmann, Achim Ertel, Jérôme Segal et Simon Clavière. Merci également aux militants de Janusz Korwin-Mikke et à ceux du Vlaams Belang d'Anvers, à Fabrizio et à Fabio Bozzo. Extrême droite européenne,
de militants galvanisés et décomplexés. Réalisation Lauria Zénine, mixage Alain Joubert, attaché de production Marie-Vonne Abolivier, coordination Perrine Kervran. Un documentaire d'Alain Lefkovitch et Doria Zénine pour la série documentaire.
LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez prendre votre carte d'électeur, bibliographie, lien, nous podcaster pour l'isoloir ou nous réécouter le lendemain des résultats, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et sur cette même page, pour continuer à scruter les extrêmes, un lien vers Tenk, la formidable plateforme du documentaire d'auteur qui vous permet de visionner pendant 2 semaines The Horse, un documentaire de Charles Burnett. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Demain, 3e épisode de la série, le Parlement européen, le grand machin supranational.